l'importance des objectivistes, c'est le fait que ça vient avant, enfin, que c'est très nettement et 20 ans avant. D'une certaine façon, dans ces cas-là, il me semble que la modernité va toujours à reculons. Les choses qui sont ce que l'on a maintenant, mais qui le sont beaucoup avant, sont plus avancées, d'un certain point de vue, que ce qui est fait plus tard. La modernité va toujours dans les deux sens, vers l'avant et vers l'arrière. Ça ne vaut pas pour Olson. À la mesure où Olson se détermine quand même beaucoup plus par rapport sur Williams, une part et Pound. Alors, Zukovsky, la modernité de Zukovsky, elle, est tout à fait, il me semble, le Zukovsky qui dépasse l'objectivisme, qui est en dehors de l'objectivisme, c'est-à-dire le Zukovsky du grand poème. Et lui, alors, est, il me semble, essentiellement d'une modernité non atteinte encore par la poésie américaine. Tout à fait, pas du tout. En particulier, la réflexion sur l'essence du processus formel, qui est terriblement combattue par l'idéologie dominante de la poésie américaine.
Les objectivistes et le collage.
Zukovsky le fait beaucoup dans Hay. C'est évident, mais c'est, disons, chez lui, c'est jamais vraiment des collages. D'ailleurs, il a une attitude assez critique vis-à-vis du collage. Et dans son commentaire à sa sextine sur la menthe religieuse, il dit, à propos de ça précisément, il appelle ça des surréalistes récollections. Et ça lui plaît pas du tout. Il faut que les éléments de parole courant traînant dans la rue, qu'il introduit ou pris n'importe où dans les journaux, tous ces éléments, pour lui, doivent être fortement insérés dans un ciment formel. Ça, c'est très clair. Il n'en sort pas. Et ce ciment qui peut être aussi bien le découpage prosodique que le recours à une forme ramenée de l'archaïsme.
A9, première partie. La lumière agit au-delà de cette intermittence où le jour nous aiguise, vers un jour soi-dit plus affiné, se déchirent les démunis. Un linguet à fin d'ornement pour un cliquet, espoir, obscurcissement, veillant des canques dimensionnelles en conjonction au repli des choses qu'elles amenuisent, d'une fureur tempérée la limite la plus obscure, un espoir assailli dans l'intact, un regard formulé, le masque épiant cela comme chose. Les hommes veulent de nous et cependant veulent pour nous, nous réfutent du moins en tant que chose de lumière, survenant au pouvoir qui préside au lieu infini de la lumière. Non pas aujourd'hui, mais demain, dans leur charnière, de qui ne nous met à épreuve, aucun en réalité ne sait de nous, nul ni temps ne nous font nous mouvoir, ne serait-ce notre éveil cicatrisant, les forts virants d'atour nous en masquons nous, instruments insufflés, les hommes s'éprennent d'appel vers nous.
Dans le Zukovsky des années 50, c'est extrêmement frappant. Il y a de très très longs passages qui sont présentés en vers ultra courts, strophe de quatrain à un ou deux ou trois événements, où précisément c'est de la parole qui est mise en pièce de cette façon. Donc, en ce sens, c'est pas du tout le type d'utilisation qu'avaient fait les dadaïstes, hein, oui. Qu'ont fait les surréalistes et que fait beaucoup l'école de New York.
A9, première partie. La dissimulation, garantie de complexion ainsi gardée, une emprise d'erreur dardée, telle erreur laisse investie. Mes positions d'orbite demeurent assujetties. Les hommes nous évaluent, choses se joignant, à point d'interférer leur propre stagnation au pourtour de la lumière pleine aux abords dégradés. Dans les machines et leurs terreurs, un usage en ce lieu des nids, les temps ont perverti la plénitude vers laquelle ils cherchent joint. Chose, de par notre état de choses, nous n'avons pas toujours connu cette division. Collusion d'intérêts, profit, rente. Le code du surplus, érodé du code sous sa forme d'effort, esquive en tant que gain la source de toute opulence corrosive tellement. La terre et son travailleur évincent la vision. En disparité de surcroît et usage qui se corrode et encore, l'effort aiguillonne les choses, certes non du déclin la méprise, mais telle lumière dans laquelle leur action en avait été prise. Nous sommes choses, disons, tel un quantum d'action, produit d'énergie et de temps défini, maintenant, dans ces mots qui riment à présent comme en le chant son exaction, force l'abstraction à s'en revenir prescrit dosage vers l'effort duquel nous fûmes circonscrits.
Alors Jacques Roubaud, vous êtes un lecteur des objectivistes et vous êtes un lecteur de Jack Spicer. Alors comment situez-vous ce fil qui va d'une lecture à l'autre ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une cohérence entre les deux démarches, parce que je pense que la démarche de Spicer est très très personnelle, originale et marginale. En fait, c'est du moins à ma lecture, qui est probablement très fragmentaire et en plus celle d'un Français, Spicer est un exemple unique et non comparable. Une démarche tout à fait qui ne s'insère pas vraiment dans le processus massif qu'on a indiqué, qui va des objectivistes au Black Mountain et à leur prolongement actuel. Alors le travail de Spicer est très lié à sa biographie, disons, et à son impossibilité d'être poète dans l'Amérique des années 50. Donc il a c'est quelqu'un qui prend ses références tout à fait en dehors de ce qui intéresse disons le milieu dans lequel il est, à la fois le milieu social et même les poètes, et qui à partir de ça bâtit en quelques années, très peu d'ailleurs, qui sont les dernières années de sa vie, sa propre contribution. Alors ce point de référence, c'est d'une part la linguistique, puisqu'il est un des probablement des seuls, des premiers et des seuls poètes américains qui est prêté une attention, disons, technique au problème du langage, puisqu'il a travaillé en linguistique, il a été un des premiers lecteurs de Chomsky, et il est même, dans la mesure où il a pu avoir un job suivi, il était chargé d'un travail linguistique de collation de documents sur la côte ouest. Enfin, je ne sais pas très bien, hein, parce qu'avec lui, on ne sait jamais si c'est un projet réel ou un rêve. Mais en tout cas, cette référence est très significative. Et dans son dernier grand livre de poèmes, il y a des textes qui sont de la réflexion, toujours à sa manière, sur la linguistique. Je pense que ça serait pas mal d'en lire un tout de suite. Ça s'appelle Transformation 2. En ville écarlate où je suis né, une belle fille demeurait. Nous bâtissons un langage différent de poésie et du cœur, agrammatical. Ce n'est point que le nom de la ville change. Écarlate devient Charlotte, ou même, en la cité de l'or, j'entendis jadis un chanteur de western en faire Tonapah. Nous n'avons pas de villes ici. Cette sorte de chose plairait aux astronautes jungiens. mais que la syntaxe change. Ceci est plus vieux que les villes. Troie était enfant quand la structure de la phrase grecque émergea. Ceci fut le véritable cheval de Troie. L'ordre change, les Troyens, n'ayant aucune idée d'une vraie et fausse syntaxe, et n'ayant point de langage narré, ne surent jamais ce qui les frappa. Alors, je crois que c'est très frappant, d'abord de l'unicité de réflexion et de ton que c'est par rapport à la poésie américaine générale, et d'autre part de la façon dont dont son intérêt pour la linguistique, même technique, est toujours changé en sa propre biographie, en fait. C'est toujours ça. Alors, le Spicer, d'abord, il faut le dire, il est mort à 40 ans. Il est mort par destruction du milieu ambiant qui a pris la forme d'alcool, je suppose, quelque chose comme ça. Et donc, ces grands textes, ce sont les livres de poèmes qu'il a construits dans ces dernières années. Ce sont des courts livres de poèmes qui se composent qui sont un poème construit avec d'autres poèmes. Il a une idée de construction d'ensemble du livre et qui doit être quelque chose à plusieurs étages, un texte à plusieurs étages. Je pense que il s'en explique d'ailleurs assez bien dans une lettre à Robin Blazer qu'il a écrite pour présenter un des premiers textes dans ce genre, que je vais lire maintenant. « Cher Robin, tu trouveras 6 juin la première publication de la White Rabbit Press. » Alors, c'était la maison d'édition, et White Rabbit, c'est la drogue. « La deuxième sera beaucoup plus belle. Tu as raison, je n'ai plus besoin de critiques de mes poèmes pris individuellement, bien que j'en ai encore envie. C'est probablement par habitude, par une très vieille habitude. » À mi-chemin, quand j'étais en train d'écrire After Lorca, d'après Lorca, j'ai découvert que j'étais en train d'écrire un livre, et non une suite de poèmes, et n'importe quelle critique d'un poème pris isolément est devenue soudain pour moi beaucoup moins importante. Cela arriverait aussi de ces admonitions que je t'enverrai dès que j'aurai terminé. L'astuce, naturellement, était celle que Duncan avait découverte il y a des années et essayé de nous apprendre, ne pas rechercher la perfection du poème, mais laisser sa manière d'écrire suivre au moment même son propre chemin, explorer ou reculer, mais ne se réaliser jamais entre les frontières d'un seul poème. C'est sur ce point que nous avions tort et lui raison, même s'il compliquait pour nous les choses en disant qu'il n'y a pas de mode ou de mauvaise poésie. C'est vrai en ce qui concerne le poème pris isolément. Un poème isolé n'existe pas. C'est pourquoi tout ce que j'ai écrit autrefois me paraît infect. Ces poèmes ne sont de nulle part. Ce sont des haltes d'une nuit, pleines au mieux de leur propre émotion, mais n'indiquant aucune direction et à peu près aussi privées de sens que l'amour dans un bain turc. Ce n'est pas ma colère qui s'est mise en travers de ma poésie, mais le fait que j'ai considéré chaque moment de colère comme quelque chose d'unique, quelque chose qui était destiné à être converti en poésie comme on change des devises. J'ai appris ça dans les départements de littérature anglaise de l'université, et aussi dans le département de littérature anglaise de l'esprit, ce grand bourbier qui guette au fond de chacun de nous, et ça a anéanti 10 ans de poésie. Lis mes autres poèmes, admire-les si tu veux, ils sont beaux et idiots. Les poèmes doivent se faire écho sans cesse les uns aux autres, entrer en résonance, ils ne vivent pas seuls mieux que nous. Cette lettre, il termine en disant, cette lettre est la plus importante de toutes les lettres que tu aies jamais reçues. Je crois que c'est
alors assez nous aurons surtout, oui, absolument, une mise en application avec le cycle du Saint Graal.
Oui, le cycle du Saint Graal est un livre qui m'a, moi, extrêmement frappé quand je l'ai lu pour la première fois, parce que c'est probablement le point où Spicer a porté le plus extraordinairement sa méthode, et où cette espèce de mélange de l'inspiration archaïque et de l'impossibilité de vivre en Amérique et sont le plus sensibles. Alors ça se compose de 7 livres qui sont pris chacun, qui ont chacun le nom d'un des héros des romans du Graal, et chaque livre a 7 poèmes qui fait donc en tout 49 poèmes. et le Saint Graal, ça s'appelle le Saint Graal, the Holy Grail.
J'aimerais bien lire un extrait du livre de Perceval. L'ermite me dit « danse » et je dansais. Toujours je rencontrais des ermites en chemin qui me disaient ce que je devais faire et je le faisais. Ou bien je me mettais en colère et n'en faisais rien, sachant toujours ce qu'on attendait, pas de moi. Elle s'électrocuta avec l'eau de son propre bain. Je tirai le fil et ce fut le noir, dit l'ermite, plus profond que tous les halos.
Alors je pense que ce qui est évidemment très, très frappant dans ce texte, c'est une lecture des romans du Graal. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une référence non négligeable à l'histoire de Perceval, dans, par exemple, qu'on peut la trouver dans Chrétien de Troyes. Lui, il ne parle pas, il parle pas vraiment des textes français, bien que probablement il ait lu, parce que j'ai trouvé des allusions très visibles, mais il part surtout du grand texte anglais qui est du gentleman cambrioleur Sir Thomas Malory sur la mort Arthur, et c'est une lecture de ça, et qui, disons un peu comme la lecture de Pound des troubadours, dit beaucoup plus sur le texte que 80 kilos de travail érudit, c'est évident. Et en même temps, bien entendu, la référence dépasse totalement les textes de départ. Donc je pense que c'est une des choses de cette modernité qui, par ce biais, me semble rejoindrait Zoukovsky, c'est s'approprier quelque chose d'extrêmement profond dans un texte ultra-archaïque pour l'insérer dans le développement propre d'une poésie très maintenue. Très actuel. Marilyn Monroe attaquée par un flacon de somnifère, comme une bouteille de frelon furieux. Transperce-moi de ta lance, dit-elle, ce que je fis. Je ne travaille plus ici maintenant. La question-réponse, toujours la même. Je ne peux plus me souvenir d'un temps où je n'étais pas roi. L'épée dans le roc est comme une histoire pour enfants racontée par ma mère. Il lui prit la vie. Et quand elle vint sur la barque flottante, quand elle entra au couvent ou quand sa mort fut annoncée dans tous les journaux, ce fut sa honte à lui, pas la mienne. J'étais le roi.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 30 octobre 1976.